Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Mehdi Ben Barka, alias Monsieur Dynamo. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui s'est fait enlever et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Celui qui est né à Rabat, celui qui s'est opposé à Hassan II et qui militait pour l'indépendance du Maroc. Il a toujours porté la parole révolutionnaire, a croisé Malcolm X et Che Guevara et a échappé à plusieurs attentats et tentatives d'assassinat. Il est une des voix du panafricanisme et du tiers-mondisme. Il voyage de l'Égypte à Cuba en passant par l'Europe et milite contre le régime de l'apartheid. On le surnomme Monsieur Dynamo. En 1965, il participe à un projet de documentaire consacré à la décolonisation. Il rencontre plusieurs producteurs, d'autres personnalités qui s'associent au projet. Et c'est juste avant une réunion de travail avec Georges Franju qu'il est enlevé, le 26 octobre, devant la brasserie Lip, par deux policiers et des malfrats qui l'embarquent dans une voiture. On perd sa trace le 29 octobre et depuis, l'affaire et les mystères qui entourent ce kidnapping et sa mort certaine ont peu à peu éclipsé l'œuvre de ce militant politique marocain qu'il faut redécouvrir. L'enquête dure encore, impliquant barbouzes, milices, services secrets et police parallèle. Elle dure depuis plus longtemps maintenant que n'a duré la vie de Mehdi Ben Barka. Cette année, cela fait 50 ans que Ben Barka s'est fait enlever. Mehdi Ben Barka, alias Monsieur Dynamo, un documentaire de Xavier Dartuis et Christine Digère.
Même si vous n'aimez pas cette constitution, vous ne croyez pas que vous pourrez jouer enfin un rôle dans une assemblée politique?
C'est fort possible, mais l'assemblée qui est prévue est une assemblée sans pouvoir. Nous ne serons pas en démocratie. En démocratie, c'est-à-dire dans une assemblée qui peut décider et qui a le pouvoir de décider. Non, nous serons dans une, si vous voulez, en atténuant les choses, nous serons dans une démocratie consultative.
Cependant, le fait même que vous existiez ne prouve-t-il pas que le Maroc est une démocratie?
Ça ne prouve pas que j'avais existé longtemps aussi. Rien ne le prouve.
Mehdi Ben Barka, alias Monsieur Dynamo, un documentaire de Xavier Dartuis et Christine Digère.
C'est une affaire puante. Ce mort fera toujours peur, disait Emmanuel Dastier de la Vigerie. Il est 12h25, nous sommes le 29 octobre 1965, devant la brasserie Lip, boulevard Saint-Germain, à Paris. Mehdi Ben Barka est avec l'étudiant Tammy Assemouri, qui se suicidera d'ailleurs plus tard. Ils ont rendez-vous avec Georges Figon et le cinéaste Georges Franju, à propos d'un projet de film sur les non-alignés, le projet Basta. Le policier interpelle Ben Barka et écarte Assemouri. Quel est le motif réel de votre visite à Paris?
Je dois rencontrer des gens de cinéma afin de réaliser un film sur la décolonisation.
Ce voyage aurait-il un but politique?
Non.
Ben Barka présente son passeport diplomatique.
Vous êtes bien de la police française?
Figon présente la plaque. Vous avez pourtant rendez-vous avec des personnalités. On m'a demandé de vous escorter, lui déclare Figon. Ben Barka monte dans la voiture. On ne reverra jamais Mehdi Ben Barka, ni vif, ni mort.
Je suis né en 1920 à Sidi Feta, quartier de la Médina de Rabat. Dans ma famille, on vivait en tribu. C'était une famille de petits commerçants. Dans ces maisons, la mienne par exemple, sans eau et électricité, on coud, on cultive, on prie. Mon père, Ahmed Ben Barka, n'a jamais eu de rôle majeur, à la différence de ma mère Fatoum. Nous étions 7 enfants, je suis le 3e. Très vite, j'ai appris le français et je le parle avec plaisir et fierté. Cela me permet en plus de me chamailler avec les nantis. Ceux-là, je les ai toujours détestés. Très tôt, j'ai fréquenté les milieux nationalistes, en premier lieu les patriotes. Ceux-là, je les respectais, je les admirais. Mon modèle, c'était Atatürk, fondateur de la Turquie moderne et laïque. Je dors peu, et sur commande, comme Bonaparte. J'ai un caractère de nomade qui m'a été imposé par l'histoire. On se moque de ma valise en carton, et de ma vieille bicyclette rouge, et de mes vêtements maladroits. Je n'ai pas le temps de m'habiller.
Ben Barka a une relation pathétique au temps.
J'aime ma famille. Je suis ingrat. Je n'ai pas le temps de la voir. Ma femme n'a jamais porté le voile. La maison est vite devenue un carrefour, une sorte de caravansérail. La porte a toujours été ouverte. Le colonel Parlange s'est trompé. Il a dit un jour à un ingénieur agronome en tournée à la campagne « Tu vois ce petit-là ? Il est à nous. » L'ingénieur rétorqua « Vous vous trompez, mon colonel, il est à nous. » 14 ans plus tard, à Xar, il est à nouveau en face de moi. Votre présence ici me prouve que j'ai perdu un très ancien pari.
Mehdi, j'ai les notes.
J'étais premier en tout au lycée. Je lisais beaucoup et m'intéressais déjà à l'éducation. Mon obsession.
Mehdi.
En 1938, je passe mon bac en sciences mathématiques au lycée des Orangers de l'Agdal à Rabat. Mention très bien. Et je poursuivis mes études en maths physique à l'université. En 39-40, j'ai voulu aller en France, mais c'est la guerre en Algérie. Alors, je me jetais à corps perdu dans les mouvements étudiants. Je deviens vice-président de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. Ma vie est une vie heureuse et déjà pleine. J'aimerais devenir l'élève d'Einstein. En 1942, je suis prof au lycée Gouraud et au collège impérial. Dans ma classe, j'ai un élève de marque, Moulay Hassan Ben Mohamed Alaoui. Le futur Hassan II.
Charles-André Julien déclarait « On voyait tout de suite, parlant de Ben Barka, qu'il était autoritaire et déterminé et qu'il avait, a priori, voué un destin hors du commun. Ce petit homme, toujours en mouvement, à l'activité dévorante, manifestait ainsi sa joie de vivre. Il vous entraînait malgré soi vers ce qu'il voulait. Il était dans un état permanent de recherche, de curiosité, sans cesse renouvelée, non pas seulement intellectuelle mais humaine. Et avec cela, un esprit qui savait pratiquer l'humour et le pittoresque, une alacrité communicative. C'est sans doute pour ça qu'on l'appelait Monsieur Dynamo. Dans ses mémoires, Hassan II écrira « Ben Barka a été mon professeur de mathématiques pendant 4 ans. Lorsque je préparais mon baccalauréat, grâce à lui, j'ai pu me hisser au niveau des maths, une discipline où je n'ai jamais été très brillant. De plus, ce n'était pas seulement un professeur, c'était un maître. » Bachir Ben Barka, vous êtes le fils aîné de Mehdi Ben Barka. Et je voudrais vous demander, aujourd'hui, 50 ans après, le souvenir que vous avez de votre papa. Surtout, j'imagine, au Caire. Est-ce qu'il avait toujours cette valise en carton, la fameuse bicyclette, ce côté presque étudiant? Quel type d'homme est-ce que c'était votre père?
C'était un père qui était souvent absent, mais lorsqu'il était présent, il était pleinement présent auprès de sa famille. Le souvenir, c'est vrai qu'au Caire, on a passé ensemble avec lui plus d'un an. C'était quasiment la première fois depuis une dizaine d'années qu'on passait ensemble autant de temps en famille avec lui. Chaque fois qu'il cessait l'une de ses activités, ses diverses et nombreuses activités internationales, il venait au Caire. Et là, je dirais, on profitait de lui. Donc c'est un père très ouvert, qui s'intéressait beaucoup à ce qu'on faisait, à notre travail, à nos loisirs, à nos activités.
«
René Galissot, vous avez connu Ben Barka. Quel genre d'homme c'était ?
C'était un battant. C'est-à-dire, il était à la fois un homme d'action et un homme de décision. Et la décision étant prise, il allait à la réalisation. Alors, évidemment, il n'a jamais été un homme de pouvoir, puisqu'il a été un perpétuel opposant, si j'ai pu dire, l'opposant principal du prince Hassan et du roi Hassan II. Et c'est là qu'il conduisait, en quelque sorte, son affrontement avec Hassan II, parce que lui était acquis à la démocratie pour le Maroc.
Dans ces années-là, je participais au comité d'action marocain avec le journal francophone L'Action du Peuple. Il faut dire que quelques années plus tard, j'ai éprouvé une forte sympathie pour le communisme français.
René Galissot, quelle a été la relation de Ben Barka avec les partis communistes ?
Il y a une thèse récente qui a été soutenue au département d'études juives de Paris 8. Et cette thèse récente prétend qu'avec les archives du Mossad et les autres archives des services de renseignement israéliens, que Ben Barka était tout simplement un agent du KGB, on pourrait dire comme Curiel. Vraiment, les services n'ont pas beaucoup d'imagination et construisent toujours les mêmes responsabilités en cherchant un chef. Un leader mondial devient la tête de l'organisation secrète, en quelque sorte, dont il est le commis au titre de l'URSS ou au titre de la Chine. Et ceci, c'est ce que Ben Barka ne veut pas.
Le nationalisme marocain s'est développé à Rabat et à Fès,
Pierre Vermeren,
notamment, autour des établissements scolaires, collèges musulmans, Moulay Youssef et Moulay Idriss, des deux capitales marocaines, l'ancienne et la nouvelle. Ce sont les étudiants de l'université de la Karawiyin, l'université islamique de Fès. Il n'appartient pas non plus à ce milieu du réformisme musulman. Donc il est plus jeune, il est né dans les années 20, et au fond, il a un parcours atypique parce qu'il ne peut pas se rendre en France pour ses études. D'abord, c'était pas très porté à l'époque, la résidence générale l'avait interdit. Et au fond, il a été formé à Alger parce que c'était la guerre et il est devenu un professeur de maths. Et d'ailleurs, le premier professeur de maths et premier agrégé de mathématiques du Maroc, à une époque où on disait que les Arabes, entre guillemets, ne pouvaient pas faire des sciences. Donc il n'est pas associé à ces entreprises. Il n'a pas fait partie non plus, puisqu'il n'a pas été étudiant en France, de l'Union des étudiants musulmans nord-africains en France, la MNAF, qui avait été le grand mouvement de solidarité et de nationalisme des étudiants maghrébins, nord-africains, on disait à l'époque, en métropole, à Paris notamment. Donc c'est à proprement parler un nationaliste marocain, mais c'est quelqu'un qui pense pouvoir user de la force, de l'élan vital populaire pour infléchir la nature du régime à l'indépendance. Et c'est pourquoi d'ailleurs il devient le premier président de l'Assemblée constituante au Maroc, parce qu'il pense qu'il a la capacité de changer la nature des pouvoirs au Maroc, et notamment du fameux serment d'allégeance que les chefs traditionnels du Maroc prêtaient au sultan.
Je peux dater mon véritable engagement politique et national à décembre 43, année de la fondation du Parti de l'Indépendance, Hizb al-Istiklal.
Actuellement, nous avons dégagé le mythe de l'Istiklal, de la réalité de l'Istiklal. Nous tous, ceux qui sont dans ces commissions administratives des 15 provinces qui viennent d'être organisées démocratiquement, et qui viennent d'élire leur commission administrative, qui viennent de déposer légalement leur statut et qui demain vont se retrouver pour décider du sort du parti.
1944, Mehdi Ben Barka est pour la première fois emprisonné, condamné à 2 ans ferme. Il est très apprécié en prison. Il en sort en novembre 1945. Son deuxième séjour en prison aura lieu dans le désert en 1951. Il sera alors reclus dans 6 lieux différents. Libéré en octobre 1954, il joue un rôle majeur dans le processus qui doit aboutir à l'indépendance du Maroc le 2 mars 1956. Le 2 avril 1947, à 16h, une manifestation est réprimée dans le sang à Casablanca. 63 morts, 117 blessés à Derb el Kebir et Derb el Aafou. Et pourtant, Mohamed V, dans son discours à la Nation le 18 novembre 50, déclarait « L'habit coupé pour le Maroc en 1912 ne le couvre plus aujourd'hui que jusqu'aux genoux et on veut lui faire porter, alors qu'il est désormais adulte. » À la suite de ces événements, le 28 février 1947, par un télégramme, numéro 182 et 184, dépêché à 12h47, le résident, le maréchal Juin, annonce au gouvernement français « J'ai décidé de faire mettre en résidence surveillée Mehdi Ben Barka, directeur de l'Istiklal. Il importe de neutraliser ce personnage redoutable. » Le maréchal Juin s'en va en septembre 51. Il est remplacé par le général Guillaume. « Les nationalistes, je leur ferai manger de la paille. » Le 12 décembre 52, le parti de l'Istiklal et le parti communiste se sont interdits et leur presse supprimée. Le résident Guillaume déclare « J'ai tué le serpent, j'ai coupé sa queue. Il ne reste plus que sa tête, mais la fin approche. » Une répression terrible s'abat sur les opposants et le peuple. On marche sur les corps.
Cependant, à Casablanca, 200 hommes de main,
le général Guillaume,
sont venus assiéger des bureaux de vote afin d'en interdire l'accès aux électeurs qui ont été molestés. Le service d'ordre lapidé a dû faire usage de ses armes. Bilan assaillant 6 morts, 15 blessés, service d'ordre 11 blessés dont 2 grièvement. Ces chiffres ne sont peut-être pas définitifs, car les blessés ne sont pas tous connus. Tel est le résultat obtenu par une poignée d'extrémistes, agissant conformément aux ordres de leurs leaders, réfugiés au Caire. Et ce sont ces derniers qui osent prétendre que la France foule aux pieds au Maroc les droits de l'homme et menace la paix du monde. Comme ailleurs, leur politique, c'est la violence, la calomnie, le mensonge, le meurtre. Leurs mains sont aujourd'hui souillées du sang de ceux qu'ils ont entraînés derrière eux. Face à tous les extrémismes, qu'ils soient racistes, politiques ou religieux, la France est résolue à poursuivre sans faiblesse l'œuvre de paix, de démocratie et de progrès qu'elle a entreprise il y a 40 années au bénéfice des populations musulmanes, c'est-à-dire arabes, berbères, israélites, européenne du Maroc. Que Dieu maudisse les menteurs.
Dans l'esprit du peuple marocain, il ne faut pas confondre le protectorat avec la colonie. Il existe une forte présence des Européens au Maroc. 10 fois plus d'Européens que dans les 8 pays d'Afrique de l'Ouest française. De plus, en 1940, la majorité des nationalistes français ont adhéré à la résistance. Le Maroc est un pain de sucre sur lequel le palais fait couler un robinet d'eau chaude. Pendant 40 longues années, le protectorat a été pour mon pays et pour mon peuple une agression spirituelle par une politique de dépersonnalisation et de lutte systématique contre notre langue et nos valeurs séculaires.
100 000 personnes se pressaient cet après-midi sur un stade de la ville où parle le leader. Alalef Fassi porte le calot nationaliste, un fin collier de barbe, le costume européen. Il est entouré de l'état-major du parti de l'Istiklal et d'une 10aine de gardes du corps armés de mitraillettes. Il retrace l'histoire du Maroc à la seule gloire du parti.
La masse du parti de l'Istiklal est là, encadrée de jeunes militants munis de sifflets à roulettes. Alal El Fassi leur parle de la puissance d'un Maroc qui porta, dit-il, la civilisation au-delà des Pyrénées. Il exalte la libération du Maroc et réclame celle de l'Afrique du Nord. Il livre à la foule des noms, des faits, le maréchal Juin, le colonialisme qui a fait tant de mal, le général Guillaume, le 20 août 53. Au premier rang de la foule qui manifeste, un drapeau de la rébellion algérienne.
Notre obsession, alors, je me répète, et c'est la preuve que cela m'obsède, c'est l'éducation des masses. Principalement dans les communes rurales, l'éducation de base.
Cher Ben Barka, vous définissez très bien votre père, l'homme d'action, le pédagogue. Est-ce que c'est plutôt un résistant ? Un révolutionnaire, un bâtisseur du présent et du futur? Est-ce que c'est un utopiste? Est-ce que c'est un Don Quichotte, un rêveur? Comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui Mehdi Ben Barka?
Je dirais tout ça. C'est un résistant à l'injustice. C'est aussi un révolutionnaire, parce que les perspectives qu'il voyait pour le Maroc, au-delà du Maroc, aussi pour le tiers-monde, hein, c'était de changer les structures coloniales ou les structures héritées du néocolonialisme. C'était l'un des points aussi sur lequel il a commencé à insister à partir de 1960. Je dirais que sa pensée s'est enrichie au fur et à mesure de ses expériences militantes. Il n'a pas cessé, au début des années 60 et sa disparition, de dénoncer le néocolonialisme, à savoir comment on substitue une domination politique, économique, sociale, idéologique des pays du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, une domination directe par les puissances coloniales occidentales avec des relais locaux. Donc substituer cette domination par, il y aurait une illusion d'indépendance, mais où le pouvoir réel reste entre les mains des mêmes personnes, mais avec une apparence d'autonomie et d'indépendance. Il a beaucoup dénoncé ces formes de néocolonialisme pour répondre au mouvement de lutte pour l'indépendance des peuples, pour répondre aussi à l'exigence qu'il fallait donner leur indépendance aux pays colonisés ou sous protectorat. Donc il fallait poursuivre cette domination coloniale, donner une indépendance factice aux pays en Afrique et en Asie, mais en même temps créer les conditions politiques, économiques, de soumission et de continuation de l'exploitation des richesses de ces continents. Et ça, il a dénoncé en permanence.
Vous le sentiez à cette époque inquiet, d'une certaine façon traqué. Peut-être vous n'aviez pas l'âge d'avoir cette perception, mais on sait quand même qu'au Caire, il avait déjà pas mal de soupçons.
En tout cas, il ne laissait jamais paraître ces inquiétudes-là près de sa famille. Avec du recul, on sait qu'il était menacé, qu'il prenait des précautions. Moi, je garde une image assez étonnante comme image. C'est lorsque on a quitté le Maroc en juillet 1964. Et quand on s'est retrouvé chez mon oncle à Francfort, la première fois que je l'ai revu, c'était à la gare de Francfort. On est parti le chercher avec mon oncle. Dans un premier temps, je ne l'ai pas reconnu parce qu'il portait des fausses lunettes avec monture d'écaille et un chapeau. Ça veut dire qu'il prenait certaines précautions, surtout quand il était en Europe. En Égypte, il n'a jamais vraiment pris des précautions. La seule alerte qu'on ait en Égypte, c'est qu'au début de l'été 1965, on a dû déménager à l'invitation des services de sécurité égyptiens, qui se rendaient compte qu'il y avait des mouvements louches autour de notre maison. Donc c'est un seul moment où il a fait apparaître un petit peu d'inquiétude vis-à-vis de sa famille, cette crainte pour sa famille de manière indirecte à travers lui. Ceci étant, lorsqu'on était au Maroc, on se rendait compte qu'il était menacé. Quand il est rentré au Maroc entre 1962 et juin 1963, moi je me rappelle, j'avais 12-13 ans à l'époque, il y avait en permanence une voiture de la police marocaine, enfin des services de sécurité marocains, le fameux CAB 1, qui était en permanence stationné devant chez nous et qui le suivait à chacun de ses déplacements. Et c'est lors de l'un de ces déplacements qu'il y a eu une tentative d'assassinat par camouflé en accident de la circulation. Et il n'a eu la vie sauve parce que lorsqu'il s'est fait reconnaître par des paysans dans un champ voisin, et ce sont ces paysans qui ont fait fuir les policiers qui venaient pour achever le travail. Entre guillemets, l'intelligence de ceux qui ont provoqué sa disparition, qui ont organisé le complot pour sa disparition, l'intelligence a été de le faire interpeller par de vrais policiers français. Il avait confiance en la France du général de Gaulle. Il avait rendez-vous ce week-end de la Toussaint 65 avec des proches, où on pense avec même le général de Gaulle, à l'Élysée. Et le fait que deux policiers à qui il a demandé de voir leur carte lui demandent de le suivre dans un véhicule, l'a mis en totale confiance. Et c'est là où le piège a pu fonctionner, où le piège s'est refermé.
Le rêve, c'est pas un rêve. C'est l'idée la plus forte de Mehdi Ben Barka. En particulier, quand je l'ai rencontré à Alger en 1963-64. L'avenir du Maghreb passe par l'école. C'est-à-dire, c'est quand les jeunes accéderont à l'école, quand l'enseignement sera généralisé, que le Maghreb sera créé. C'est pourquoi la route de l'unité, c'est pas seulement un chantier qui trace une route, c'est une école. Pour ce qui est de la route de l'unité, il s'agit de libérer et d'intégrer au Maroc et d'intégrer au Maghreb le RIF, c'est-à-dire l'ancienne zone espagnole. Et c'est le sens de la route de l'unité. Et c'est d'autant plus le sens de la route de l'unité qu'il s'agit de faire l'unité des Maghrébins. Et l'unité des Maghrébins, il faut qu'elle renonce aux intérêts clientélistes et locaux qui sont déjà en place, ou aux intérêts des familles qui travaillent uniquement dans leur fief du Moyen Atlas, dans leur fief du Sud, dans leur fief au Rif, etc. Donc c'est l'unité au sens de rassemblement populaire dans un mouvement.
Au Maroc, le taux de scolarisation en 1959 est de 34%. 89,1% des Marocains sont analphabètes et à la campagne, 97%. Ben Barka n'est pas anti-français. Il reste attaché à notre langue et à notre culture.
La culture française pourra continuer à occuper une place de choix. L'apport français est non seulement souhaitable, mais nécessaire.
La langue ?
Il faut arabiser tout en respectant l'apport et la présence de la langue et de la culture française. La forte colonie française qui est implantée au Maroc nous impose des obligations, car nous entendons bien la voir se maintenir chez nous et s'y développer. Il nous est nécessaire de trouver une solution harmonieuse, de cohabitation, sans arrière-pensée, ni esprit de domination.
Sur l'ensemble du mouvement de décolonisation qui existe d'un bout à l'autre du monde...
Conférence de presse du général de Gaulle du 5 septembre 1960.
Je n'ai jamais cessé, depuis le jour même où la guerre mondiale m'a amené à parler, à agir au nom de la France, je n'ai jamais cessé de suivre la même direction. Considérant que l'émancipation des peuples, car c'est de ça qu'il s'agit, est conforme tout à la fois au génie de notre pays, au but que nos grands colonisateurs, par exemple Gallieni, Lautet, avaient en vue dans leur œuvre colonisatrice, conforme aussi au mouvement irrésistible qui s'est déclenché dans le monde à l'occasion de la guerre mondiale et de ce qui s'en est suivi. J'ai engagé dans cette voie-là, dans cette voie de l'émancipation des peuples, la politique de la France, naguère, et depuis 2 ans, elle est orientée dans le même sens. Ce n'est pas, bien entendu, que je renie en quoi que ce soit l'œuvre colonisatrice qui a été accomplie par l'Occident européen et en particulier par la France. Mais je n'en crois pas moins qu'il faut savoir, quand le moment est venu, et il est venu, reconnaître à tous le droit de disposer d'eux-mêmes, leur faire en principe confiance et même attendre d'eux qu'ils apportent à leur tour leur contribution au bien de notre humanité. C'est cela, somme.
La France ne peut plus se contenter d'une politique marocaine, d'une autre tunisienne et d'une troisième algérienne. C'est avec l'ensemble de ces trois pays qu'il convient d'envisager ces rapports. Les États arabo-musulmans doivent par conséquent faire front commun. Nous nous refusons à ce que l'Afrique du Nord devienne une sorte de satellite d'un système européen. Notre préoccupation, parallèlement à celle du devenir de notre terre et de notre peuple, le Maroc, doit être celle de l'unité du Maghreb. Elle doit se faire avec l'instrument du droit des peuples à l'autodétermination.
Entre 1956 et 1959, Ben Barka occupe à la fois la fonction de président de l'Assemblée nationale consultative, qui est un poil à gratter, et celle de secrétaire de l'organisation de l'Istiklal. L'année 1955 sera décisive. C'est le temps de la grande discussion sur le recours aux armes. L'enracinement populaire de Ben Barka commence à faire peur. Son parti devient la principale force sociale du Maroc et le premier interlocuteur de la France en attendant le retour de Mohamed V. Le 22 août 1955 s'engagent les pourparlers d'Aix-les-Bains avec Edgar Faure. Il est l'interlocuteur pour le gouvernement français. Pensons que nous sommes dans le contexte de la violence extrême de la guerre d'Algérie.
Comme vous le savez, nous nous sommes entretenus, mes collègues et moi, avec plusieurs des importantes personnalités que nous avons invités à ces consultations à Aix. Le gouvernement entend en effet continuer d'appliquer son programme qu'exigeait ces consultations approfondies sur une situation délicate entre toutes.
Ben Barka parlera plus tard de la faute d'Aix-les-Bains. Ben Barka est à Paris en exil en 1961.
J'ai l'intuition que la révolution vient d'être stoppée. Il faut s'expliquer sur les erreurs, les insuffisances pour préparer les luttes à venir. Se demander pourquoi nous avons défendu un compromis, celui d'Aix-les-Bains, auquel nous ne croyons qu'à moitié.
Le 15 novembre 1955, Mohamed V, le souverain, revient à Rabat. Des témoins de l'époque décrivent un Ben Barka sortant sans cesse de la voiture qui est conduit par Oufkir. Ben Barka scrute les toits, lance des mises en garde aux services d'ordre. Le lendemain, dans son discours du trône, le roi prône la mise en place des institutions démocratiques issues d'élections libres, fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Du 2 au 5 décembre 1955, il organise le congrès extraordinaire du parti. Le 2 mars 1956, le ministre français des Affaires étrangères, Christian Pinault, et le président du Conseil marocain, Bekaï, apposent enfin leur signature au bas du texte d'une déclaration commune qui reconnaît l'indépendance du Maroc, y compris son droit à disposer d'une diplomatie et d'une armée nationale. Ben Barka a 36 ans.
Je suis optimiste. Je pense à l'avenir. J'ai en vue un type de citoyen, le citoyen militant dont le Maroc a besoin, et aussi les autres pays du tiers-monde. Il y a deux conceptions du pouvoir. Celle d'un régime théocratique et féodal qui tendrait à maintenir ou à ressusciter les structures médiévales de la société traditionnelle marocaine. Cette conception est celle d'une minorité féodale, terrienne, mercantile ou religieuse. Nous avons quant à nous la conception d'un État moderne, démocratique et progressiste.
En octobre 58, le pays est foudroyé par une féroce répression menée par Hassan II, chef des armées, épaulé par Mohamed Oufkir. C'est le massacre de centaines de montagnards du Rif. 6 000 soldats français et 10 000 soldats espagnols appuyés par 70 avions stoppent définitivement l'armée de libération sud. La bataille de l'armée de libération constitue le premier choc frontal entre le futur Hassan II et Ben Barka. Jean Lacouture déclarera « Ben Barka est un Lénine plus un Edgar Faure ». Le futur Hassan II déclare à Jean Lacouture dans Le Monde en 1960 « Je ne gouvernerai pas l'épée à la main ». L'épée au fourreau, alors ? Oui, répond celui qui n'est pas encore souverain, mais battant les bottes, pour que l'on sache bien que nous ne sommes pas faibles. La relation entre Hassan II et Ben Barka a toujours été ambiguë. Hassan II disait de lui, il parlait d'un ton enflammé avec un débit rapide et une intelligence qui lui sortait des yeux, des doigts. C'était une très belle mécanique intellectuelle, une personnalité attachante, un tempérament brillant.
Je dirais depuis que Hassan prend le pouvoir à la mort du père, donc en 61,
Maurice Butin.
À partir de ce moment-là, incontestablement, il ne pas plus admettre Ben Barka. Ben Barka revient au Maroc en 62, il y aura l'accident qui est incontestablement au niveau des services des polices de peut-être liquider Ben Barka dans un accident de circulation. Là encore, c'est plutôt, à mon avis, au niveau des polices qu'autre chose. Peut-être Hassan II, mais je pense pas. C'est pas le genre. Le genre, c'est d'éliminer ces personnages qui, sur le plan marocain et demain sur le plan international, un aura beaucoup plus important. Mehdi Ben Barka dans Le Monde, c'est Nasser, c'est Lumumba, c'est Couturé. Donc les grands de ce monde.
En 1959, Mohamed V suspend le Parti communiste. Les doctrines matérialistes sont incompatibles avec notre foi. Nos valeurs morales et notre structure sociale ne peuvent avoir de place car l'islam, grâce à son esprit de justice et de tolérance, nous suffit. Dans un premier temps, en 1960, puis en 1963, Mehdi Ben Barka est forcé à l'exil. Il quitte le Maroc le 21 janvier 1960 pour l'Allemagne, pour voir son frère, puis Paris. Le 11 septembre, une bombe explose au marché de Casablanca, faisant 25 morts et 60 blessés. Le 26 février 1961, le souverain Mohamed V décède. 1 million de personnes défilent dans la rue. L'année 62 se présente sous des augures favorables. Le nouveau souverain, Hassan II, déjà chef des armées, fait adopter la Constitution. La même année voit signer les accords d'Évian sur l'Algérie, le 18 mars 1962.
La Constitution qui vient d'être approuvée. Son principal défaut est qu'elle est un copier-coller sur celle de De Gaulle.
En 1962, Hassan II déclare alors à Jean Lacouture « Je ne laisserai pas mettre la monarchie en équation ». Cette même année, Ben Barka rentre au Maroc. Les foules l'acclament. Plus tard, sous le règne d'Hassan II, Ben Barka deviendra le cauchemar du palais. Moulay Ali rencontre Ben Barka à Francfort chez son frère le 25 avril 65. « Rentre, dit Moulay Ali à Mehdi. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Sa Majesté veut que tu sois avec nous. Il t'attend. »«
Puisque c'est vous qui venez, puisque c'est Sa Majesté qui le demande, dites-lui que dans les 15 jours qui viennent, je rentrerai pour le voir. »
Hassan II déclare « Nous arrivions toujours à renouer le dialogue. Nous passons notre temps à composer. Nous sommes tous immergés dans le même bain, bain d'amour et bain conflictuel. Nous formons au fond un ménage vraiment plus qu'attachant.
Je leur ferai plus de mal mort que vivant.
C'est un agitateur intelligent qui pondait 10 000 idées par jour. Sur le nombre, on pouvait en recueillir une ou deux bonnes. J'affirme qu'il n'existait pas de divergence entre Mehdi et moi. Puisqu'il n'est pas rentré à l'époque où je le lui demandais, Cela n'a plus d'intérêt pour l'instant. Une politique s'explique par des signes. Ben Barka revient au Maroc le 9 janvier 1963.
Pour réaliser la libération économique, notre tâche anti-impérialiste consiste tout d'abord à refuser de nous installer comme héritiers du pouvoir colonial, à refuser de limiter notre politique par les normes et le niveau économique établi dans les conditions du système du protectorat.
À propos de la tricontinentale et à propos du rendez-vous que Ben Barka devait avoir avec les différents leaders, disons, de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde à La Havane le 10 janvier 1966, on est au moment où Kennedy lance sa grande offensive pour que vraiment les services américains, j'allais dire, prennent le pouvoir contre les velléités de l'Europe, prennent le pouvoir en Amérique latine.
Oui, mais je pense qu'effectivement les services américains sont au courant.
Maurice Butin.
Et vraisemblablement les services marocains sont en liaison avec les services américains. La CIA, qui est chargée de tout ce genre d'opérations, ne tient pas du tout à ce que Mehdi Ben Barka débarque à La Havane au mois de janvier 66. Donc, feu vert, en quelque sorte, est donné à Hassan II, qui veut, lui, récupérer Mehdi Ben Barka.
Le ministre de la Justice du Maroc déclare.
Les investigateurs, c'est l'enquête qui le déterminera d'une façon précise. Pour l'instant, nous en sommes aux comploteurs, n'est-ce pas, tels que nous les avons vus, tels qu'ils sont interrogés par la police. L'enquête déterminera d'une façon nette s'il y a une instigation.
Croyez-vous, monsieur le ministre, qu'il s'agirait là de l'ingérence d'une puissance étrangère?
Non,
c'est rien. Monsieur Ben Barka est au Caire.
Monsieur Ben Barka est au Caire. Déduisez ce que vous voudrez de sa présence. Pour le moment, je ne peux pas préciser s'il s'agit d'une instigation ou d'une autre.
En 63, dès le retour de Ben Barka, les autorités dénoncent un complot contre le roi. Ben Barka est condamné à mort par contumace. Du Caire, il déclare
« Je dénonce le pouvoir féodal et personnel qui n'est plus qu'une dictature policière cherchant à asseoir sa domination derrière le paravent d'élections truquées. »
Nous l'avons dit, Ben Barka est un homme pressé. Le monde et l'homme nouveau ne peuvent plus attendre. Bassaya, qui aurait été le titre du film pour lequel il avait rendez-vous avec Franju le 29 octobre 65 sur le boulevard Saint-Germain, est d'abord le slogan de la tricontinentale.
Dans notre réunion d'aujourd'hui, pour réaffirmer ensemble notre détermination commune d'extirper à la racine l'impérialisme qui constitue la menace suprême pour l'humanité tout entière, pour nous, il ne saurait y avoir de paix véritable sans la destruction de l'impérialisme et la libération des peuples de toute forme d'exploitation.
Le tricontinental, comme son nom l'indique, c'est trois continents, Afrique, Asie, Amérique latine.
René Fallicot.
Au fond, c'est le regroupement des mouvements de libération ou des mouvements qu'on appelait progressistes à l'époque, c'est-à-dire de gouvernements, par exemple, d'Afrique nouvellement décolonisés, ou bien encore des grandes puissances émergentes du tiers-monde et du bloc soit soviétique, soit chinois, qui se sont retrouvés pour organiser la suite du mouvement révolutionnaire des continents qu'on appelait le tiers-monde, au fond, à l'époque. Mais singulièrement, et là, évidemment, c'est un projet qu'on peut juger peut-être de fou aujourd'hui, c'est-à-dire on va isoler en quelque sorte les États-Unis en créant une fédération de mouvements en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Alors, Mehdi Ben Barka, ce grand dirigeant de l'opposition marocaine en exil, va être un peu l'organisateur de technique de la tricontinentale.
Il y a un télégramme de Ben Barka à Fidel Castro le 2 septembre 65 qui encense d'une certaine façon la révolution cubaine. Et on connaît les adages, les rumeurs qui disent bah, de toute façon, à partir du moment où on savait que Fidel Castro était dans cette affaire-là de façon proche, le boulevard Saint-Germain se rapprochait.
Le kidnapping, vous voulez dire?
Le kidnapping, voilà, et la disparition.
C'est tellement vrai que, justement, c'est la dernière fois qu'on a vu vraiment en public filmer Ben Barka. C'était à Cuba, c'était pour une réunion préparatoire. Et là, ils ont fait une conférence de presse. J'ai d'ailleurs interviewé plusieurs des personnes qui en étaient, qui étaient aussi les organisateurs à Cuba de la Tricontinentale. Mais on sait qu'à ce moment-là, Fidel Castro, et ça m'a été répété par un des responsables des services de sécurité cubains, on dit à Mehdi Ben Barka, faites très attention, d'autant que le roi Hassan avait essayé de faire pression sur Cuba en disant « on arrête le commerce du sucre si vous avez Ben Barka à la Havane pour cette affaire-là ». Donc c'est une partie d'échec assez importante en disant « on va avoir le maximum d'alliés, de gens qui sont d'accord pour faire face d'une part à ce que sont les États-Unis d'Amérique et leur politique en Afrique. Ils viennent d'abattre, de faire assassiner Lumumba, par exemple, au Congo. Ils sont en train d'intensifier la guerre au Vietnam. Ils sont aussi en train de renverser des gouvernements depuis 63-64 en Amérique latine et de mettre au pouvoir des dictatures dont on sait qu'elles seront quand même terribles. Et l'idée également, c'est pourquoi ne pas essayer de faire rentrer dans le jeu même des gens très improbables. Exemple, le général de Gaulle, qui est en train de se fâcher un petit peu avec l'OTAN, etc.
Du 22 au 28 février 1965, il est à Alger, là où se tient un séminaire afro-asiatique sur l'économie, avec 35 pays représentés, en présence du Che Guevara.
Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence, c'est l'union de tous les pays dites en développement, et c'est la compréhension, s'ils sont capables, des grands pays développés capitalistes, de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour chercher une forme de relation qui permette un développement pacifique. Parce que dans ce moment, on doit se définir. Or, on peut et donner quelques avantages aux pays sous-développés pour se développer, ou la situation internationale chaque jour deviendra de plus en plus difficile et peut-être des grandes conventions sociales seront dans tout le pays sous-développés.
La question fondamentale dans notre mouvement de libération nationale et celle du pouvoir politique, afin de veiller à ce que l'indépendance se traduise immédiatement par le transfert effectif et immédiat du pouvoir aux représentants authentiques de la révolution nationale dans les pays intéressés, même si cela devait occasionner la reprise de la lutte armée.
La lutte armée, c'est précisément une question qui fera débat à la Havane lors de la réunion de la Tricontinentale en janvier 1966, en l'absence de Ben Barka, assassiné.
Si les élections sont truquées, si la liberté de réunion est niée, si la presse est bâillonnée, si les patriotes porte-parole des masses sont pourchassés, condamnés à mort, ou à la détention, ou tout simplement liquidés, comment s'étonner, comme a cru pouvoir le faire le chef de l'État, que le peuple emploie un moyen plus direct pour se faire entendre?
Il dit en juin 65...
J'appelle perspective révolutionnaire la conclusion tirée à long terme de nos tâches démocratiques anti-féodales et de nos tâches anti-impérialistes. Je pourrais l'appeler aussi vocation socialiste.
Les uns après les autres, les grands leaders du tiers-monde disparaissent. En 1964, Mehdi Ben Barka a peur. Il se déguise, se procure une arme. En mars 64, il déclare
« Je ne veux pas aller à Paris. J'y suis menacé. Paris est truffé de policiers marocains et je pourrais être enlevé à Orly même. »
Hassan II, le 29 mars, déclare « Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de danger aussi grave pour l'État que celui d'un prétendu intellectuel. » Il aurait mieux fallu que vous soyez des illettrés. Et pourtant, le souverain sait bien que Ben Barka peut être une soupape de sûreté. J'ai besoin de mon ancien professeur de mathématiques. J'ai une équation à résoudre pour le Maroc. Il cherche à le faire revenir.
Je ne pense pas que s'il était revenu
Pierre Vermeeren
au Maroc en 1965, je ne pense pas que ça aurait fondamentalement changé le destin du Maroc parce que Hassan II n'aurait pas partagé son pouvoir. Hassan II avait une très haute idée de la préservation de ses intérêts, des intérêts de la dynastie alaouite et des intérêts du trône marocain. Et au fond, il aurait essayé de lui donner des honneurs, peut-être des fonctions, mais ça se serait terminé de toute manière assez rapidement. Il y avait peu d'espoir qu'il y ait un compromis entre les deux hommes parce qu'au fond, leur projet politique, idéologique, leur conception du monde, la très haute idée aussi qu'ils avaient eux-mêmes et de leur force ne leur aurait certainement pas permis de s'entendre dans le cadre d'une monarchie autoritaire comme l'était le Maroc de Hassan II en 1965.
Où est-ce qu'on en est dans l'affaire ?
Nous sommes toujours à l'instruction après la seconde plainte qui a été déposée en octobre 1975 par Bachir Ben Barka, le fils aîné de Mehdi. Et cette plainte court pour assassinat, complicité d'assassinat. Depuis cette époque, donc 40 ans maintenant, un certain nombre de personnes ont été entendues et incontestablement les progrès par rapport au premier dossier ont apporté l'incontestable responsabilité des liens entre les services marocains et les services français du SDEC.
Bon, Philippe Vianney, Nouvel Observateur. Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de donner au peuple français, au moment où vous sollicitiez ses suffrages pour l'élection présidentielle, les informations qui lui auraient permis de juger l'action de votre gouvernement dans l'affaire Ben Barka, informations que la presse que vous critiquiez tout à l'heure a dû tenter seule de reconstituer?
C'est l'effet de mon inexpérience.
Conférence de presse du général de Gaulle du 20 février 1966.
On a vu se déchaîner à cette occasion de frénétiques offensives tendant à meuter l'opinion contre les pouvoirs publics. Il y a eu l'assaut des partisans, une fois de plus unanime naturellement dès lors qu'il fallait essayer de nuire au régime qui n'est pas le leur. Ces partisans ont essayé, au mépris de toute équité, sans l'ombre du commencement d'une preuve, ont essayé de faire croire que les auteurs ou les protecteurs ou les responsables de l'enlèvement de Ben Barka étaient de hauts fonctionnaires et même des membres du gouvernement. Et c'est pourquoi, hélas, une grande partie de la presse travaillée par le ferment de l'opposition politique, attirée par l'espèce d'atmosphère à la Belphégor que créent les vocations des mystérieuses barbouzes, et professionnellement porté à tirer profit, c'est bien le cas de le dire, de l'inclination de beaucoup de lecteurs pour des histoires qui rappelleraient celles du gorille ou de James Bond ou de l'inspecteur Leclerc, etc. Une grande partie de la presse s'est lancée sans ménager rien dans l'exploitation de l'affaire. Trop de journaux ont, au-dedans et au-dehors, desservi l'honneur du navire. L'honneur du navire, c'est l'État qui en répond et qui le défend. Et il le fait. Il le fait en tenant compte, dans ses relations diplomatiques, du manquement qui a été commis à l'égard de sa souveraineté. Il le fait en facilitant tant qu'il peut l'action de la justice pour la recherche et pour le châtiment des coupables.
Où est le corps de Mehdi Ben Barka ?
Où est le corps de Mehdi Ben Barka? C'est une question qu'on pose. On a eu tellement d'échos différents. Récemment, quelqu'un des services spéciaux israéliens qui a participé autour de cette affaire, que l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, qui dit, lui, que les Marocains, gênés par la mort de Mehdi Ben Barka, pour demander à s'en débarrasser, ont utilisé les services israéliens qui auraient enterré Mehdi Ben Barka dans la forêt de Saint-Germain et dissous le corps avec de la chaux.
Une plainte pour assassinat a été déposée par moi-même au nom de ma famille il y a 40 ans. Cette plainte est toujours en instruction à Paris. Mais les questions fondamentales que nous posons déjà il y a 50 ans, lorsque mon père a été enlevé, ces questions sont toujours sans réponse. Ce sont des questions qui sont simples. Les réponses sont fondamentales pour une famille. À savoir, qui sont les assassins de Mehdi Ben Barka? Où est son corps? Nous n'avons pas de lieu pour aller le recueillir. Il n'y a pas de sépulture de Mehdi Ben Barka.
Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc.
Je l'ai dit à maintes reprises, l'assassinat politique n'a jamais été et ne sera jamais dans l'éthique de la monarchie marocaine. Soyez assurés que j'ai été moi le premier outré et révolté quand j'ai appris la disparition de M. Ben Barka. Car, quels qu'aient pu être les points de divergence entre nous, les relents estudiantins des relations entre professeurs et étudiants qui nous ont unis pendant longtemps demeurent, ce sont des choses qui ne s'oublient pas, sans compter que, indépendamment de ses défauts, j'ai reconnu plusieurs fois et publiquement ses qualités. Toujours est-il, c'est que je l'ai dit dans une déclaration, j'ai toujours tenu à pouvoir accomplir mon devoir de croyant, à entrer dans une mosquée, et particulièrement à la Kaaba, qui est la mosquée, qui est la maison de Dieu, en n'ayant pas sur mes mains la moindre tache de sang innocent.
Mais la réalité se venge de toutes ces illusions. La seule vraie politique est la politique du vrai. Il faut d'abord s'intéresser au pouvoir, le reste est rêverie.
C'était Une vie, une œuvre, Mehdi Ben Barka, alias Monsieur Dynamo, avec les voix de Xavier Dartuy et Rudy Galifi. Au mixage, Manuel Couturier, équipe de production, Claire Poinsignon et Perrine Kervran, un documentaire de Xavier Dartuy, réalisé par Christine Diger.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Pour continuer, références, bibliographies, podcasts, réécoutes et surtout commentaires sur la page de l'émission. Bien entendu, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. La semaine prochaine, nous serons avec celle qui peignait le visage de Marie-Antoinette, Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun.